OK, on va commencer notre cinquième leçon dans notre série sur la sanctification. Ce soir, on va voir la sanctification pratique. On va voir l'idée que la sanctification implique un combat. On le sait, les Écritures nous l'enseignent. 1 Timothée, chapitre 6, verset 12, nous dit « Combat, le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de plusieurs témoins. » On réalise peut-être pas assez qu'on est en guerre. On est en guerre définitivement. Cette guerre-là est aussi réelle que si on s'en irait dans un pays où que les bombes nous tombent sur la tête, mais excepté que c'est une guerre de nature spirituelle. Nos ennemis, on les voit pas, mais ça veut pas dire qu'on les voit pas, qu'ils sont pas actifs, qu'ils font pas énormément. Alors c'est une guerre de nature spirituelle. Et les conséquences de cette guerre-là, peuvent même être éternelles. Ça l'implique, bien entendu, quand on est en guerre, ça l'implique des blessures. Aller à la guerre pendant plusieurs années puis pas recevoir de blessures et pas être impliqué dans un conflit, c'est impossible. Bien sûr, la guerre implique des veilles et des fatigues et elle apporte aussi des sièges. Tu sais qu'on souvent dans l'Ancien Testament, on disait Jérusalem était assiégée. Alors, il entourait la ville, puis il s'organisait pour qu'il n'y ait plus d'eau, qu'il n'y ait plus de nourriture, jusqu'à ce qu'ils puissent les combattre, par la famine. Alors, ça va, peu importe, quand on est impliqué dans une guerre, qu'elle soit de nature physique ou de nature spirituelle, bien entendu, ça va amener des défaites, et des victoires. Souvent, on va dire, j'ai pas perdu la guerre, j'ai perdu une bataille. Et alors, dans la vie chrétienne, on va en avoir plein de batailles. Des fois, on va avoir des victoires, puis des fois, on va avoir des défaites. Mais qu'on le veuille pas, on est en guerre. Éphésiens 6, verset 12, nous le rappelle de façon très claire, « Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. » Autrement dit, on est en train de combattre avec des anges qu'on ne voit pas, mais qui sont continuellement en action autour de nous pour nous faire soit abandonner la foi, soit pour nous empêcher de prier, soit pour nous empêcher de lire les Écritures. Et tout ce qui peut être de nature spirituelle, ils veulent essayer de nous arrêter. Ou de briser notre zèle. Alors, la sanctification authentique, le premier point qu'on va regarder, c'est que ça oblige au combat. On ne peut pas devenir chrétien puis dire, « Ah ben moi, la guerre, j'aime pas ça, m'embarque pas là-dedans. » qu'on le veuille pas, on est en guerre et on doit se battre avec différentes affaires. Au moins trois choses que les Écritures nous disent de façon très claire. On doit se battre avec notre propre chair. Alors, la chair, c'est la partie de nous-mêmes qui a été régénérée, qui demeure en nous, même après après qu'on vient au Seigneur. Alors, les Écritures nous disent qu'on a encore une propension au mal, même après notre salut, et qu'on a un cœur faible, et les Écritures parlent de notre cœur comme étant instable comme l'eau. L'eau, c'est pas très stable. Alors, il parle de notre cœur comme étant instable comme l'eau. Alors, pour nous empêcher de déraper et de succomber, les Écritures nous disent quoi faire. Une des choses qu'ils nous disent de faire, c'est veiller et prier. Alors, veiller, ça veut dire faites attention à ce qui se passe autour de vous. Parce que, alors, ça nous dit dans Marc 14, 38, veillez et priez, de peur que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. 1 Corinthiens 9, 27, Paul dit, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. » Et un autre, Colossiens 3, 5, dit, « Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, tient à la terre, la fornication, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice, qui est une idolâtrie. » Alors là, je vous donne quelques versets, mais dans la leçon, j'en ai plus que ça. Pour que ça puisse rentrer dans une période d'à peu près une demi-heure, je vais en nommer juste quelques-uns de manière à ce qu'on respecte notre idée d'une demi-heure. Mais je vous dis que dans la leçon la première leçon que j'ai faite, il y en a plus que ça. Alors, mais je pense qu'on comprend tout de suite que se battre avec la chair, ça veut dire quoi? On a toute notre vieille nature irrégénérée en nous. On sait c'est quoi se battre avec. On doit se battre aussi avec le monde. Le monde a une influence énorme sur nous. On s'en va dans le genre d'achat, qu'est-ce qu'on voit? Des femmes à moitié tout nues dans vitrines. On regarde la télévision, on a des incitations au mal, dans les revues, dans les magazines, dans la télévision, dans Internet. C'est partout autour de nous. Et ça nous attire continuellement. Qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, l'avouer, le monde nous attire encore, même si on est régénéré. Alors, faut vraiment faire attention. Il y a une bataille qui doit se monter, qui doit se faire. Et les Écritures nous disent que l'amour du monde, c'est un grave péché. Voyez-vous, dans Jacques 4, verset 4, ça se dit « Hommes et femmes adultères ». Il parle à des chrétiens, là. Il dit « Hommes et femmes adultères ». Un adultère, c'est quelqu'un qui trompe son conjoint avec un autre. Alors ici, c'est dans le sens spirituel. Il dit « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu ?» Inimitié, ça veut dire « ennemi ». Ça veut dire que comme enfant de Dieu, on peut faire des choses qui nous font percevoir comme si on était des ennemis de Dieu alors qu'on devrait pas l'être. Il dit « Qui voudra donc être ami du monde se rendra ennemi de Dieu. » Un autre verset, 1 Jean 2,15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Mais quand on dit « monde », faut pas se tromper. Je me souviens d'avoir déjà entendu une fois quelqu'un m'a dit « C'est dangereux de dire « N'aimez point le monde ». Ça dépend. Il faut que tu définisses ce que tu veux dire par le monde. Le monde, on veut pas dire les gens. C'est pas ça que le verset dit, là. N'aimez pas le monde, c'est les valeurs du monde qui sont autour de nous par la radio, la télévision, le cinéma, les médias, etc. Alors, faut pas se tromper, parce que si on pense n'aimez pas le monde, ben là, on est en train de dire que la Bible se contredit. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Ça, c'est un verset que j'aime beaucoup. Parce que tout ce qui est né de Dieu, est-ce qu'on est né de Dieu? Oui. Est victorieux du monde. Alors, on se devrait de connaître des victoires dans notre lutte contre le monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Voyez-vous, on peut se battre avec le monde et avoir des victoires. Parce que la Bible nous dit qu'on peut être victorieux. Quand on dit qu'on se bat avec le monde, puis qu'on est toujours en défaite, on est toujours vaincu par le monde, on est en train de contredire les Écritures parce que la Bible nous dit « Tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. » Alors, on serait supposé d'avoir de plus en plus de victoires du monde. Il y a un autre ennemi. Donc, on vient de parler de plusieurs ennemis. On en parlait d'un autre. Il doit se battre avec le diable, bien entendu. Le diable et sa horde de démons. Alors, le vieil ennemi de l'humanité, bien entendu, n'est pas mort. Et il est extrêmement actif avec sa horde de démons qui viennent attaquer les individus et les églises locales. Pensez pas que les démons ne travailleront pas là, à Nantes pour venir essayer de mettre la bisbille dans l'église, pour qu'il y ait des gens qui quittent et qui se produisent toutes sortes de problèmes. Même, ça fait pas tellement longtemps que je suis arrivé dans l'église, je n'en vois déjà des problèmes. Alors, si je vois des problèmes, c'est parce qu'ils existent, sont là. Et souvent, c'est pas Dieu qui fait en sorte qu'on vit des problèmes. C'est parce qu'on est des pécheurs. On est tous des pécheurs et on pêche tous les uns contre les autres. C'est pour ça que les Écritures nous disent de nous aimer, les Écritures nous disent de nous supporter et les Écritures nous disent d'avoir de la patience et de prier les uns pour les autres. Si on le fait pas, dites-vous une chose, le malin lui va attaquer encore plus fort. Alors, on doit se battre avec le diable. Job, chapitre 1, verset 7, un livre que j'ai fait au complet en prédication. Attends, j'étais à Rouen. C'est un livre très intéressant. Job 1 nous parle. Il dit, « Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel et dit, « De courir ça et là sur la terre et de m'y promener. » Bien entendu, il vient pas juste prendre une ride, de se promener, prendre une promenade. Il vient pour attaquer, il vient pour... il est l'ennemi des chrétiens et il est l'accusateur. Alors, il passe son temps à nous accuser devant Dieu. Garde ton sein, viens te parler en mal contre un autre. Hein, c'est beau, ça. Il t'accuse continuellement devant Dieu. Mais pourquoi Dieu peut dire ce péché-là, comme tous les autres qu'il a fait et qu'il fera, a été payé par la personne de Christ et son œuvre quand il est venu sur la terre. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. « Soyez sobres et veillés, car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, sachant qui il pourra dévorer. » Alors, c'est une réalité. Éphésiens 6, 11. « Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. » C'est une très grave erreur que de sous-estimer la puissance de l'ennemi de nos âmes. J'aurai encore plein de versets. Autre chose qu'il faut se rappeler, c'est que le combat, la bataille est inévitable. On peut pas dire, il doit se battre, il n'y a pas de neutralité. On peut pas dire, un peu comme ceux qui étaient en Suisse dans le temps de la guerre, « Ah ben moi je m'en vais en Suisse puis je veux pas me mêler de ça. » On ne peut pas, comme chrétien, ne pas se mêler de la guerre spirituelle. On est dedans et on est sous attaque continuelle. Alors c'est une nécessité absolue de savoir qu'on est en guerre et d'utiliser les moyens que Dieu nous a laissés pour qu'on puisse vraiment combattre selon son désir. C'est une nécessité aussi qui est universelle. Là-dedans, il n'y a pas de rang social, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois masculin, féminin, jeune, vieux. Le malin attaque tout le monde sans aucune exception. Alors, c'est extrêmement bon à savoir. Et on a tous, par nature, un cœur qui est plein d'orgueil, plein d'incrédulité. Pas pour rien, quand le Seigneur est venu sur la terre à ses propres disciples, il disait qu'ils étaient des incrédules. Ô gens de peu de foi! Il parlait à des personnes qui étaient des croyants. Nous aussi, des fois, on agit comme des gens de peu de foi. Alors, on est plein d'incrédulité, on est plein de paresse, on est plein de mondanité, puis on est plein de péché. Alors, on a tous besoin, on vit dans un monde qui est plein de pièges, plein d'embûches, et le diable est malicieux, infatigable et extrêmement actif. Il lâchera jamais. C'est une nécessité aussi qui est perpétuelle. Quand on entend parler, des fois on voit des films de guerre que, bon, à Noël, ils décident de faire une petite, ils arrêtent pour une nuit, pour 24 heures. Mais dans la guerre spirituelle, il n'y en a pas de trêve. Il n'y en aura pas, il n'y en a jamais eu, puis il n'y en aura jamais, jusqu'à ce qu'on traverse l'autre côté. Alors, 2 Timothée nous rappelle cette vérité-là, 2 Timothée chapitre 2, verset 26, il parle et qu'ils sortent de l'ivresse des pièges du diable qui les tient captifs et soumis à sa volonté. La sanctification, le deuxième point qu'on va regarder, c'est que la sanctification, c'est un combat qui est mené par la foi, bien entendu. La foi en quoi? La foi en la parole de Dieu. La première chose, la foi générale envers la vérité de la parole écrite de Dieu. Comme chrétien, le Seigneur nous a laissé une arme formidable qui est sa parole, et on se doit de l'utiliser avec beaucoup de constance et régulièrement et quotidiennement. La Bible, c'est la fondation sur laquelle est bâti le caractère du soldat chrétien. Hébreux 11, verset 6 dit « Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, la foi envers la vérité de la parole de Dieu, une autre sorte de foi, la foi spéciale en la personne, en l'œuvre et aux offices de Jésus-Christ. On ne rentrera pas dans les détails de ça de ce soir, mais il reste que c'est quand même connaître la personne de Christ. Une autre foi, c'est la foi dans la présence de Christ, toujours prêt à nous aider. Ça, c'est une des choses les plus rassurantes quand on sait qu'on est en guerre, de savoir qu'on peut aller continuellement devant le trône de grâce et implorer Dieu de nous donner de la force pour ce combat-là. Parce qu'on ne se bat pas contre des ennemis qui ne sont pas intelligents, là. Ils sont plus intelligents que nous autres. Et ils ont plus d'expérience que nous autres. Ils connaissent nos faiblesses. Ils savent par où attaquer. Alors, on se doit de se rappeler continuellement que de la présence de Christ qui est toujours prêt à nous aider. Éphésiens 6, versets 16 et 17, « Prenant par-dessus tout le bouclier de la foi, par le moyen duquel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Alors, bien entendu, il est impossible de surévaluer l'importance de la foi dans le combat. Quand on regarde, par exemple, Hébreux 11, on appelle ça le chapitre des héros de la foi, où l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle que dans l'histoire biblique, il y a eu plein de monde qui ont mené des combats très, très intenses et qu'ils ont vécu par la foi. Alors, il y a ça, il y a ceux de l'histoire de l'Église. Dans l'histoire de l'Église, il y a plein d'exemples. On peut prendre les exemples dans le temps de la Réforme. Wycliffe, Huss, Luther, Calvin, et on pourrait en nommer une multitude d'autres. Ceux qui sont plus proches de nous autres, Whitfield, John Newton, Charles Spurgeon, et d'innombrables serviteurs de Dieu qui ont fait quoi? Qui se sont confiés en Dieu, et ils savaient que le Seigneur les aiderait. Peut-être qu'une prière qu'on devrait faire, celle qui est mentionnée dans Luc 17, verset 5, « Et les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. » Et les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Alors, on peut le demander au Seigneur, ça devrait faire partie même de notre demande quotidienne, de demander au Seigneur de nous fortifier dans la foi, de nous rendre plus forts, d'aimer plus les Écritures, d'être plus conscient qu'il est toujours là pour nous aider, et de connaître mieux son œuvre, sa personne et ses offices et tout ce qui le concerne. La sanctification est un bon combat, ça c'est notre troisième point. Pourquoi on peut dire que le combat qu'on mène est un bon combat? La première raison, c'est un bon combat parce qu'on est sous les ordres du meilleur des généraux. Vous savez, quand on regarde des émissions sur la guerre 39-45, il y a certains généraux, soit des Allemands, ou soit des Anglais, ou soit des Américains, qui se sont distingués comme étant des hommes qui étaient capables de prendre des bonnes décisions, qui étaient intelligents et sages dans leur façon d'agir, qui essayaient de sauver le plus de vies de leurs soldats possible. Mais le meilleur des généraux humains, c'est rien du tout comparativement à notre général. Notre général, c'est un général avec toutes les qualités, omniscient, omnipotent, et sage, et il fait jamais de move qui n'est pas intelligent. Alors, il est là, il sait qu'il y a une guerre, puis il est là pour nous soutenir dans la guerre. Il n'est pas là pour nous empêcher d'être dans la guerre. Il sait qu'on va être dedans. Il nous dit quoi faire pour vaincre dans cette guerre-là. La deuxième raison pour laquelle le combat chrétien est un bon combat, c'est que le combat chrétien est mené avec les meilleures aides. Alors, la guerre est menée sur une triple corde. La triple corde, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et le combat chrétien, troisième raison, est assuré avec les meilleures promesses. Le Seigneur nous dit dans les Écritures, Romains 6, 14, quel beau verset. « Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce. Le péché ne dominera pas sur vous. » Des fois, il domine, puis il nous a, puis on tombe, on a une chute. Mais en général, le verset nous enseigne que le péché, comme chrétien, ne devrait pas dominer sur nous. Romains 16, 20, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Ça revient avec la question de Madame tantôt. « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. » Et Jean 10, verset 28, « Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et nul ne les ravira de ma main. » Quel beau verset. Dieu nous dit que quand il nous sauve, il nous a dans sa main, puis il n'y a pas personne d'assez fort pour nous enlever de sa main. Nul! C'est ça veut dire, même Satan y compris, personne ne peut ravir de sa main. Hébreux 13, 5, « Que votre conduite soit exempte d'avarice. Soyez content de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Certainement, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Romains 8, versets 38 et 39, quel beau verset aussi. « Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Peux-tu avoir plus beau comme verset que ça? Autrement dit, il dit qu'il n'y a rien qui peut nous empêcher de se rendre au bout. On va se rendre au bout à cause de Christ. Alors, le combat chrétien, quatrième raison, est combattu avec les meilleurs résultats. Le Seigneur, je dis dans Jean 18, verset 9, « C'était afin que cette parole qu'il avait dite fût accomplie. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Seigneur, ceux que le Père a donné au Fils, il dit « Je n'ai perdu aucun. » Alors ça, c'est intéressant à savoir. Et cinquième raison, le combat chrétien fait du bien à l'âme de celui qui le mène, ce combat-là. La guerre spirituelle fait appel à ce qu'il y a de meilleur dans l'homme. Pas ce qu'il y a de pire, à ce qu'il y a de meilleur. Alors, ça va diminuer l'égocentrisme, ça va diminuer la mondanité, et ça va fixer nos affections sur les choses d'en haut. Sixième raison, le combat chrétien procure du bien au monde. La guerre spirituelle hausse les standards de la religion et de la moralité. Alors, même en temps de guerre, où on verrait autour de nous la moralité descendre à un niveau incroyable, les chrétiens continueraient de jouer un rôle important pour maintenir quand même un certain niveau, malgré de tout ce mal-là qui se passerait autour de nous. Alors, le combat chrétien procure du bien à notre âme et procure du bien aussi au monde. Le combat chrétien va se terminer aussi par une récompense. Alors, ça dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 4, « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de gloire. » Alors, je vois au moins 4 applications des leçons qu'on se doit tirer de cette très, très brève leçon. Soyons, premièrement, avertis qu'on est en guerre et qu'on se doit d'utiliser tous les moyens que le Seigneur nous donne. On fait partie de son armée et on doit mener le combat avec tous les moyens qu'il nous a donnés et avec la plus grande ferveur. Deuxième application, soyons encouragés. Nous devons revêtir toute l'armure de Dieu, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle et de la propagation de l'Évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'Esprit. Reconnaissons également le rôle de la prière dans le combat spirituel. Troisième application, soyons conscients que nous souffrirons et que nous ne devons pas nous embarrasser des affaires de la vie, comme ça dit dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4. « Toi donc, endure les souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun homme faisant la guerre ne s'embarrasse des affaires de la vie afin de plaire à celui qui l'a enrôlé. » Et quatrièmement, soyons rassurés, l'œil du Seigneur est constamment sur nous et la victoire est certaine. Et cinquièmement, soyons remplis d'espérance. Le Seigneur, le retour du Seigneur est proche. Quelle belle idée! Souvent, j'ai entendu souvent ça dans des prédications, dire « Le Seigneur est proche, le retour du Seigneur est proche. » Et je pense qu'ils ont raison. On est peut-être beaucoup plus proche du retour du Seigneur qu'on le croit. Et ça, c'est une idée qui nous rassure. Apocalypse 21, verset 7, « Celui qui vaincra héritera toutes choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. » Béni soit Dieu pour son don ineffable, la personne, glorieuse personne de Jésus-Christ. Amen.